gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Il a remporté le prix Gémeaux en 2007 du meilleur acteur dans une série dramatique pour son interprétation magistrale de Jean-Guy Lavigueur dans Les Lavigueurs, la vraie histoire. Mais sa carrière a commencé comme imitateur en 1977, alors qu'il n'avait que 14 ans. Le grand secret enfin dévoilé, vous pouvez savoir son âge. Il collabore régulièrement à l'émission « Et Dieu créa la flaque » et à l'antenne radiophonique de Radio-Canada, à l'émission « À la semaine prochaine » avec nous. Grand plaisir d'accueillir Pierre Verville.
Rebonjour.
Et à la semaine prochaine, on y est déjà, nous.
Oui.
C'est une émission quand même assez formidable.
Ça. Ah oui, oui, c'est tellement écouté. On a un public en studio, c'est comme un bye-bye à toutes les semaines. C'est Philippe Lagu qui est le grand Manitou de ça, et ça fonctionne très, très bien depuis maintenant 8 ans.
Alors. Où vous faites un peu la satire, ou en tout le moins des commentaires sur l'actualité de la semaine.
Oui, oui, c'est ça, exactement. Et très chaude, c'est-à-dire qu'on enregistre le jeudi 5h, et il y a des textes sont écrits jusqu'à 4h30.
Est-ce que vous collaborez à l'écriture des textes?
Je suis consultant, c'est-à-dire que je lis les textes et je commente quand vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, je dis non, ça ne va pas. Je lis les textes à partir du lundi, donc je travaille le lundi après-midi, un petit peu le mardi quand je peux, et je travaille tout l'après-midi du mercredi et toute la journée du jeudi.
Ça veut dire quand même qu'au plan personnel, vous devez être très attentif à tout ce qui se passe.
Ah, mais moi, c'est une déformation professionnelle depuis les capsules. Depuis les capsules que je faisais avec Renaud Mirois.
Vous en avez fait 15 000, paraît-il?
À peu près, oui, c'est ça.
Incroyable.
C'est ça. Avec Jacques Baudry au texte et Régent Paris. Et moi, je coordonnais tout ça. Et j'écrivais aussi la dernière année, beaucoup, entre autres. Mais j'ai eu vraiment le support de ces gens-là, incroyable.
Ça m'a toujours fasciné parce que, bon, on était tous très attentifs à ces capsules. Souvent, on se retrouvait en voiture, en s'en allant au travail, puis on avait hâte d'entendre la capsule de Pierre Verville. De produire comme ça, quotidiennement, dans une actualité qui est constamment mouvante, ça devient quand même un exercice qui ne devrait pas être toujours très facile.
C'est curieux parce que, oui, c'est pas facile. C'est un petit peu, il y a un stress. Comme je dis, moi, Jacques écrivait 3 jours semaine, Régent une journée, et on se parlait toute la journée, pas toute la journée, mais souvent je le rappelais. OK, il y a ce sujet-là, j'ai pensé à telle affaire. Lui, il retravaille, il formulait, il m'envoyait le tout, je retravaillais. Et c'est que si j'avais fait que ça dans la vie, il n'y avait pas eu de problème. Mais c'est parce que je faisais ça en même temps que
c'est ça.
La semaine prochaine, que la flaque, à un moment donné, que même que les Lavigueurs, que c'est tout ça là, qui est un peu.
Parce que moi, je me souviens d'avoir fait la revue de presse à Salut Bonjour à TVA,
oui.
Où on entrait à 3 heures le matin, on avait hâte que les journaux rentrent, puis là, on faisait les découpures, on lisait des petites synthèses et tout ça. Mais là, en plus, vous devez faire ça, mais vous devez inventer quelque chose qui va faire rire, qui va nous faire comprendre que c'est peut-être pas aussi important qu'on le pensait, ou au contraire, que c'est devenu très important.
Et on s'est fait prendre. Parce que quand on a commencé, c'était supposé être une capsule par jour, et nous, on en a envoyé 5 ou 6 la première journée, la deuxième journée, la troisième journée, et là, on les a gâtés. Alors, ils étaient habitués à en avoir 5, et là, on s'est embarqué dans quelque chose, et ça a duré, comme on dit, la dernière année, c'était un bulletin de nouvelles, mais
exact.
C'était quand même 5, il y avait toujours les 5 mêmes capsules, mais j'étais en direct.
Oui. Alors, puis on entendait toujours le rire de René après,
oui,
chaque...
Là, moi, je livrais ça en direct, et voici, là, possible, et on entend M. Harper, alors, comment ça va? Mais, là, c'est la difficulté, c'était ça aussi, l'exercice de passer d'un à l'autre, et de ne pas avoir de public, mis à part René, un ou deux collègues, c'était...
Ouais. Aviez-vous un personnage fétiche?
Moi, c'est toujours le dernier que j'imite, que j'aime faire le plus. C'est-à-dire, quand je travaille présentement Éric Salvaille, alors j'ai un plaisir... Je vous le fais pas parce qu'il n'est pas à mon goût encore. Il y a quelque chose qui manque, mais j'ai du plaisir à répéter. Puis à un moment donné, je dis « Ah, ça y est, je l'ai! » Je me lève et ça y est.
Mais vous avez eu quand même, au plan de l'actualité, des personnages qui étaient facilement... caricaturable, si je peux me permettre l'expression. Oui. Stephen Harper, par exemple.
Oui, quoiqu'il n'est pas très drôle. Il était pas très drôle, non, non. Jean Charest était plus facile à faire. C'est qu'il avait un côté très, comme on dit, slappé, c'est-à-dire très mou un peu. Alors, vous allez voir ce qu'on va faire comme gouvernement.
C'est presque Pierre Lalonde.
C'est exactement ça. C'est, on a l'impression que... D'ailleurs, je suis sûr que si Jean Charest se mettait à chanter... je suis sûr qu'on entendrait à travers sa voix, on percevrait les influences, ou en tout cas le même style que Pierre Lalonde.
Alors, l'histoire se répète, dans le fond, au plan des voix, au plan de l'histoire. Robert Charlebois, qui nous raconte l'histoire à sa façon.
Quartier, quartier, oh, chaque quartier, si t'avais navigué à l'envers de l'hiver. Quartier, quartier, si t'avais navigué du côté de l'été, aujourd'hui on aurait... Toute la rue Sherbrooke bordée de cocotiers, avec perché dessus des tas de perroquets, et tout le Mont-Royal couvert de bananiers, avec des petits singes qui se balanceraient le long du Saint-Laurent. On pourrait se baigner tout nu en plein hiver et se faire bronzer. Quartier, quartier, oh, chaque quartier, si t'avais navigué à l'envers de l'hiver. Quartier, quartier, si t'avais navigué du côté de l'été, aujourd'hui on aurait le pont Victoria, tout de liane tressée. On le traverserait en portant des paquets sur la tête, en riant et sans chaussures aux pieds. On jouerait du tam-tam et du ukulélé, et toute la rue Pile sentirait l'oranger, la menthe, le jasmin, le lotus, l'orchidée. Quartier, quartier, oh, chaque quartier, si t'avais navigué à l'envers de l'hiver. Quartier, quartier, si t'avais navigué du côté de l'été, aujourd'hui on aurait sur l'avenue des Pins des girafes étonnées de voir des écureuils leur passer sous le nez, de gros éléphants blancs sur la rue des Lormiers et la place Ville-Marie en forme de minaret, des tempêtes de sable tout chaud et tout doré sur lequel en janvier il ferait bon rêver. Quartier, quartier, oh, chaque quartier, si t'avais navigué à l'envers de l'hiver. Quartier, quartier, si t'avais navigué du côté de l'été, aujourd'hui on aurait Montréal à Dakar, Conakry ou Tanger, Montréal à Tokyo, Kyoto ou Kobe, Montréal à Aden, Fremantle ou Bombay, Montréal à Java, Bornéo, Papété, Montréal à Phnom Penh, à Bangkok, à Hue, Montréal à Hong Kong, Canberra ou Sydney, Montréal à Dakar, Conakry ou Tanger, Montréal à Tokyo, Kyoto ou Kobe, Montréal à Aden, Fremantle.
C'est bien que vous ayez choisi cela, Pierre Verville, parce que il dit que si Cartier avait découvert l'Amérique un peu plus au sud, on aurait peut-être plus de chaleur, plus de beau temps, peut-être aussi plus d'oiseaux.
Ah, ça, je sais pas. On avait déjà beaucoup d'oiseaux. On a eu une sorte de perroquet, de perruche, connu, en fait, je pense, au Canada, dans le sud de l'Ontario. Je pense que c'est Champlain, à un moment donné, je ne me souviens pas, là, qui est arrivé là, et puis qui a vu, il y avait des connures partout, je me trompe, c'est une connure ou un perroquet, mais en tout cas, dans cette famille-là, c'est disparu, ces oiseaux-là, bien sûr, mais ça, il y a plein de facteurs qui font...
L'ornithologie, c'est devenu une passion pour vous. Vous me disiez que vous avez visité un musée à Ottawa.
Oui, c'était pour l'émission Fou des oiseaux, qui est une émission... j'anime, puis on m'a montré des oiseaux qui sont disparus, qui sont empaillés, mais dont il reste, je ne sais pas moi, 40 spécimens, par exemple, du pic à bec ivoire, d'autres espèces d'oiseaux qui sont disparus, qu'on m'a montré comme ça, que j'ai eu la chance de voir, façon de parler, sont morts. La tourte, entre autres, qui est disparue il y a une centaine d'années.
Mais qui a donné naissance au nom de tourtière.
Ah, ça, je ne sais pas, faudrait que je me renseigne, parce que je ne suis pas absolument sûr.
Non.
C'est ça. Faudrait vérifier. que l'explication était donnée à quelque part. À un moment donné, je vais vérifier ça. Mais de toute façon, il reste que c'était l'oiseau le plus nombreux. C'est-à-dire, il y en avait des billions, semble-t-il. Il y en avait, et les gens tiraient dessus.
Alors, quand vous parlez de millions d'oiseaux, vous avez évoqué l'émission Fou des oiseaux, qui est réalisée par Richard Anger, productrice Geneviève Lavoie.
Oui.
On va entendre un extrait de cette émission où vous êtes animateur, mais là où vous conversez avec quelqu'un du Nouveau-Brunswick qui nous parle d'un oiseau bien particulier.
Ah.
Ça va nous remettre un peu dans cette ambiance de l'animation de Pierre Verville avec les oiseaux.
75 à 85 % de la population mondiale du bécassin semi-palmé passe par la baie de Fundy en migration. Fait si qu'il arrive quelque chose à ces oiseaux-là, qu'est-ce qui peut arriver à l'espèce?
Donc là, on est ici à Riverside, Albert. C'est un petit village sur le chemin.
Pour en savoir davantage sur les bécassos semi-palmés, je suis venu rencontrer Guy Beauchamp, un autre chercheur qui a développé une véritable fascination pour cet oiseau.
Un faucon? Ben oui. C'est peut-être celui qui va harceler les oiseaux tout à l'heure.
J'ai rarement été aussi ému en observant le vol d'un oiseau qu'ici, dans la baie de Fundy. Et je comprends maintenant pourquoi tant de gens travaillent à la protection des bécassos semi-palmés et à la conservation de leur lieu de repos et d'alimentation. Car c'est plus qu'un spectacle qui nous est offert par ces tout petits oiseaux. C'est la représentation même de la force et de la fragilité de la vie.
Alors oui, ça c'était au Nouveau-Brunswick, dans le sud du Nouveau-Brunswick, il y avait vraiment des milliers de... Je pense qu'il y avait 100 000 bécassos semi-palmés. Et de voir ce spectacle-là, c'est... On rentre en méditation pratiquement, on n'en revient pas. C'est beau, là, et on a ça chez nous, et ça ne coûte rien. Et c'est un loisir formidable, l'ornithologie.
Comment ça a commencé, tout ça?
Ah, ça a commencé, j'ai engagé quelqu'un, un chauffeur, je ne conduisais pas, je conduis d'ailleurs très peu, je suis venu en taxi même, et j'ai engagé quelqu'un pour venir me reconduire à un spectacle, et je suis arrivé trop tôt. Et là, on s'est promené dans l'après-midi, il dit, ben tiens, je vais te montrer. Il dit, dans le coin ici, il y a de la campagne pas mal, il dit, il y a de la nature, il y a un champ, il y a tout ça. Puis il y a des espèces d'oiseaux que je vais te montrer. Moi, je suis là, mon Dieu, ça m'intéresse, mais pas autant que ça. En fait, même pas du tout. Et là, on est en voiture, il me dit, ça, c'est la vache à tête brune, ça, c'est... Et il commence à me parler des oiseaux et de leur vie. Et c'était tellement intéressant, c'est resté là. Je trouvais que c'était une belle expérience. J'ai eu le goût de m'acheter un livre. J'ai acheté le livre. Je trouvais ça compliqué. Il y avait beaucoup d'oiseaux. Et quelqu'un m'a dit, écoute, prends l'hiver pour les étudier, les regarder comme ça, et tu vas voir qu'après ça, ça va venir. Et j'ai commencé à les apprendre comme ça. On a loué un chalet. J'ai installé des mangeoires avec justement Richard Anger, qui était mon ami d'enfance. On se connaît depuis l'âge de 5 ans, là. Celui qui réalise l'émission. C'est un projet qu'on avait ensemble. J'installe les mangeoires, on est en 87, il y a plein d'oiseaux multicolores, des gros becs errants, plein. Et là, je fais, mais mon Dieu, on a tout ça chez nous. Et là, la passion a commencé là, mais vraiment le véritable déclic, on est au Costa Rica en 90, je vois 5 toucans à travers la lorgnette d'un télescope. Quelqu'un avait un télescope, quelqu'un était ornithologue juste à côté d'où j'étais, et il m'a dit, viens avec moi, je vais te montrer. Il m'a montré 5 toucans dans un télescope, et je suis devenu fou.
Au point que quand vous voyagez maintenant, j'imagine que vous avez toujours l'œil.
J'ai plus que l'œil, j'ai toujours des jumelles, j'ai 3-4 paires de jumelles, j'ai des petites
jumelles. C'est devenu une passion.
C'est devenu une passion, et c'est une passion pour ma copine aussi. On se promène ensemble, nous c'est vraiment, on fait des voyages pour ça, on fait des voyages, même quand on va dans un, je sais pas moi, en Italie, à Rome, on traîne nos jumelles, mais des petites jumelles, et on va dans un parc et on voit plein de choses.
Et l'émission est diffusée où?
Alors c'est sur la chaîne Uni. Et c'est également sur TV5, parce que la première saison était sur Uni, maintenant elle est sur TV5. Deuxième saison est maintenant sur Uni, et elle sera sur TV5 probablement éventuellement. Mais c'est tout ce qu'on a tourné durant cette deuxième saison, c'était absolument fabuleux. La première, mais la deuxième aussi. C'est...
Alors, une émission qui a pour titre Fou des oiseaux.
Donc très documentaire.
Oui, et dont vous faites l'animation, et qui nous fait découvrir non seulement des oiseaux, mais des lieux aussi existants. exotiques.
Des lieux exotiques et des ornithologues aussi fascinants. Alors, et on montre que dans le fond, c'est un loisir accessible, c'est fait pour tous. Alors, moi, souvent, je suis le lien entre le scientifique et le grand public.
Alors, pour vous, Pierre, on a fait un petit montage de chansons, quelques-unes, qui font référence aux oiseaux.
Ah.
Idée à te coudre et trois gouttes d'eau dedans. Au-dessus du perchoir, un os de sèche tout blanc. Et un petit piaf triste de vivre en prison. Ça met du soleil dans la maison.
Par-delà les frontières, les prairies et la mer. Dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, ils s'envolent encore. Plus haut, le cœur est un oiseau.
Quand l'oiseau
quand l'oiseau chante, c'est pour toi.
Et la dernière qu'on vient d'entendre, « Quand l'oiseau chante », Fugain qui revient encore, je me permets de revenir sur l'imitation. Le fait de découvrir une nouvelle voix, est-ce qu'il y a une technique particulière? Est-ce que, bon, vous êtes né avec des cordes vocales qui sont nouveau genre?
En fait, il n'y a pas beaucoup de sortes de voix différentes. Et quand on réussit à comprendre... j'écoute des gens, des fois, je me dis, ah, cette voix-là ressemble à quelqu'un d'autre. L'autre jour, en écoutant Pierre-Carl Péladeau en entrevue, j'ai fait, mon Dieu, c'est Gilbert Sicotte. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit à Gilbert Sicotte, mais je le dirai un jour. Il a le même thème, le même grain de voix.
Mais c'est curieux ce que vous dites, parce que quand j'entends, moi, le ministre Coiteux, la personne que j'entends, c'est Serge Grenier des Cyniques.
C'est exactement ça que c'est le même que moi. oui, j'ai eu à le faire. C'est ce côté un peu comme Serge Grenier avait, et un petit peu au-dessus de ses affaires, un peu façon de parler. Ce flegme-là, il y a du Serge Grenier là-dedans.
Mais il y a quand même, j'imagine qu'il y a des caractéristiques propres aux voix qui reviennent. Bon, c'est une technique, quelque part.
C'est une technique, mais il faut. Parfois, on part. Quand je faisais des capsules à la radio, parfois il y avait un ministre qui s'exprimait et il fallait que je le fasse le lendemain. Alors, je faisais ce qu'on appelle du copier-coller. Hein? Je reproduisais, je pouvais le faire, j'étais capable de le faire pour deux ou trois phrases, mais sans plus. Alors que ce qui est intéressant, c'est quand on fait des personnages de l'intérieur. La meilleure technique, là, c'est d'écouter la personne, c'est de regarder la personne. Par exemple, c'est drôle, j'ai fait un truc pour Marcel Sabourin et la première fois que j'ai imité Marcel Sabourin, il venait de recevoir un prix. Et là, il est sur scène et il parle, je le regarde dans la télévision et je me dis, ça y est, je le comprends. Et là, je l'écoute et je me lève tout à coup et je deviens Marcel Sabourin. Ah, qu'on a eu du plaisir quand on a tourné ce film-là. Et c'est parti. Et là, j'ai appelé un de mes amis, je lui ai dit, écoute, pose-moi n'importe quelle question, je vais te répondre à Marcel Sabourin. C'est un plaisir de faire ça.
Est-ce qu'il y a des personnages qui vous procurent plus de plaisir ou d'autres moins?
Oui, parce qu'il y a, bon, il y a certains politiciens qui sont plus drabes un peu, qui sont plus... il faut travailler plus fort à ce moment-là. mais sinon, ça peut être visuellement aussi, comme Pierre-Carl Péladeau, les yeux, chez ses yeux. Alors, il y a des personnages qui... C'est sûr que les personnages qui sont un petit peu plus... Jacques Debeurs, par exemple, ou des personnages comme ça, qui sont plus... comment je pourrais dire ça? Plus, déjà caricatural, ben, c'est sûr qu'on a plus de plaisir à les faire parce que, bon, on peut aller un petit peu plus loin. Sinon, ben, c'est à nous de trouver. J'adore ça, moi, quand... J'aime bien faire un personnage qui n'a jamais été fait.
Comment vous abordez vos personnages? Bien sûr, vous nous avez dit que vous écoutiez, mais est-ce que vous travaillez la voix ou vous travaillez la personnalité?
Ça va ensemble.
Ça va ensemble.
Oui, ça va ensemble. C'est parce que c'est pas juste... Je regarde la personne et souvent, je essaie d'être la personne.
Alors, on va pouvoir y revenir. Présentez-nous la prochaine pièce de Bernard Lavillier.
Ah oui, OK. Oui, Bolanquero, je ne sais pas si je ne prononce pas bien là. C'est une pièce de Bernard Lavillier qui est une salsa. Et c'est vraiment, moi, comme je dis, c'est des petits bouts de film qu'il fait. Et là, il parle de Porto Rico. Et c'est une aventure à Porto Rico. Et je sens que c'est un gars qui s'éclate là-bas. Et, mais ses textes sont beaux. Écoutez-le comme il faut.
C'était Porto Rico, c'était humide et chaud, c'était nègre et latin. On claquait nos dollars au bout d'un long comptoir dont on cherchait la fin. L'amour a des bas noirs, des hauts talons vernis et des lèvres de sang. Lorsque monte la nuit et que les blancs sont gris dans les bars de Saint-Roch. « J'avais un seul ami, comptant quelques années de sommeil en retard. Le plus fort des dockers quand il était à terre en sortant du mitin. Il se foutait du fric, de la mort et des flics, tout le monde l'aimait. Quand on avait tout bu, on sortait dans la rue et la salsa disait. C'était Porto Rico, où y a que des bagous et puis des dents en or. Quand la margarita fait tourner la salsa, a réveillé les morts. Y'avait Ray Barreto, Théo Feliciano, Ismaël Miranda. Et Willy Rosario, cuivre, basse, piano, Timbales, conga. Rouge le néon du club en reflet sur la rue. Au bar des Caraïbes, y a plus que des pirates et quelques ingénus. Ici Porto Rico, capitale salsa, Paris, je te salue. Y'avait sûrement des plages, des cocotiers, du sable, mais je les ai pas vus.